Et vous avez reconnu ce générique, c'est le moment de retrouver Jacqueline Engrave, présidente de Femmes Solidaires, pour cette belle émission qui s'appelle « Lecture de textes de littérature féminine et féministe ». C'est le quatrième numéro aujourd'hui. Bonjour Jacqueline.
Bonjour Odile, bonjour Tiffany et bonjour à toutes et à tous. Eh bien, aujourd'hui, nous lisons un extrait choisi d'un livre de Marguerite Yourcenar, le livre qui lui valut une renommée internationale et qui s'intitule « Mémoire d'Adrien », Adrien avec un H. Marguerite Yourcenar est née en 1903 et décédée en 1987 à 84 ans, est une écrivaine essayiste et académicienne française, la première femme élue à l'Académie française en 1980. Elle est née à Bruxelles de son vrai nom Marguerite de Crayencourt, C-R-A-Y-E-N-C-O-U-R, le nom de son père très aimé et influent, Michel de Crayencourt. Elle choisit comme nom de plume Yourcenar, une anagramme partielle de Crayencourt. De famille aristocratique fortunée, élevée dans un milieu cultivé par son père féru de culture grecque, elle n'a jamais eu à, entre guillemets, gagner sa vie, comme d'autres artistes. Elle n'a pas eu d'enfant non plus. Donc, elle a pu consacrer sa vie entière et toute sa, entre guillemets, force vitale, comme le souhaitait Virginia Woolf pour toutes les femmes artistes, à l'écriture, à son œuvre, à son art, ce qui est une situation très favorable et exceptionnelle pour une femme. Mémoire d'Adrien paraît en 1951 sous la forme d'une lettre de l'empereur romain Adrien. Adrien a vécu et régné au IIe siècle de notre ère, une période de relative paix et prospérité appelée la Pax Romana. Cette lettre imaginaire est adressée à l'un de ses successeurs, Marc Aurèle, Marc comme le prénom, Aurèle, A-U-R-E, accent grave L-E, connu lui comme l'empereur philosophe. Ce livre, à la fois roman, histoire, poésie, est une réflexion sur l'exercice du pouvoir, la mort, l'amour et le destin, mêlant histoire et antiquité. Dans la collection Folio, il a 316 pages. Voici un court extrait pris dans les pages 128 à 131 où l'on ne manquera pas de remarquer la modernité de ce texte écrit au tout début du XXe siècle. Donc, je cite. « Je doute que toute la philosophie du monde parvienne à supprimer l'esclavage. On en changera tout au plus le nom. » Je suis capable d'imaginer des formes de servitude pires que les nôtres parce que plus insidieuses. Soit qu'on réussisse à transformer les hommes en machines stupides et satisfaites qui se croient libres alors qu'elles sont asservies, soit qu'on développe chez eux, à l'exclusion des loisirs et des plaisirs humains, un goût du travail aussi forcené que la passion de la guerre chez les races barbares. À cette servitude de l'esprit ou de l'imagination humaine, je préfère encore notre esclavage de fait. Quoi qu'il en soit, l'horrible état qui met l'homme à la merci d'un autre homme demande à être soigneusement réglé par la loi. J'ai veillé à ce que l'esclave ne fût plus cette marchandise anonyme qu'on vend sans tenir compte des liens de famille qu'il s'est créé. Cet objet méprisable dont un juge n'enregistre le témoignage qu'après l'avoir soumis à la torture au lieu de l'accepter sous serment. J'ai défendu qu'on l'obligeât au métier déshonorant ou dangereux, qu'on le vendît aux tenanciers de maisons de prostitution ou aux écoles de gladiateurs. La condition des femmes est déterminée par d'étranges coutumes. Elles sont à la fois assujetties et protégées, faibles et puissantes, trop méprisées et trop respectées. Dans ce chaos d'usages contradictoires, le fait de société se superpose au fait de nature. Encore n'est-il pas facile de les distinguer l'un de l'autre. Cet état de choses si confus est partout plus stable qu'il ne paraît l'être. Dans l'ensemble, les femmes se veulent telles qu'elles sont. Elles résistent au changement ou l'utilisent à leur seule et même fin. La liberté des femmes d'aujourd'hui, plus grande ou du moins plus visible qu'aux temps anciens, n'est guère qu'un des aspects de la vie plus facile des époques prospères. Les principes et même les préjugés d'autrefois n'ont pas été sérieusement entamés. La faiblesse des femmes, comme celle des esclaves, tient à leurs conditions légales. Dans l'ordre financier, elles restent légalement soumises à une forme quelconque de tutelle. Toute loi, trop souvent transgressée, est mauvaise. Les lois devraient le moins possible différer des usages. J'ai accordé à la femme une liberté accrue d'administrer sa fortune, de tester ou d'hériter. J'ai insisté pour qu'aucune fille ne fût mariée sans son consentement. Ce viol légal est aussi répugnant qu'un autre. Le mariage est leur grande affaire, il est bien juste qu'elle ne la conclue que de leur plein gré. Une partie de nos maux provient de ce que trop d'hommes sont honteusement riches ou désespérément pauvres. Par bonheur, un équilibre tend de nos jours à s'établir entre ces deux extrêmes. Mais tout est à faire dans l'ordre d'un intelligent réagencement économique du monde. Voilà, c'est la fin de cette citation. Et je vous lis quand même la toute dernière phrase de Mémoire d'Adrien. Ça se termine comme cela. Tâchons d'entrer dans la mort les yeux ouverts. Voilà, donc, pour cette citation de Marguerite Yourcenar. Si on ne doit lire qu'un seul livre de Marguerite Yourcenar, bien sûr, c'est celui-là, bien qu'elle en ait écrit beaucoup d'autres, et notamment la trilogie de son autobiographie, avec trois livres qui s'appellent « Souvenirs pieux », et c'est l'histoire de la famille de sa mère, une famille d'origine belge, « Archives du Nord », ça c'est l'histoire de la famille de son père, et le troisième s'appelle « Quoi l'éternité ?» Voilà, je recommande tous ces livres.
Merci Jacqueline.